Alors, en tout cas, c'est un privilège pour moi d'être là et de pouvoir prendre part à cette série merveilleuse, Les prières de la Bible. Et alors que je préparais le message pour entrer dans cette série avec vous, j'ai vraiment eu sur mon cœur de vous parler de David. On connaît tous David. Et je voulais qu'on puisse entrer ensemble dans la parole de Dieu avec une prière de David que j'appellerais une prière de sanctification. J'ai lu un jour un livre, plusieurs ont écrit des ouvrages et ils sont pas cassés la tête, ils ont écrit des ouvrages, puis ils ont écrit « David, un homme selon le cœur de Dieu ». Enfin, on s'entend qu'au niveau du titre, c'est presque bien trouvé, mais quelqu'un l'avait déjà dit avant eux. Et puis, j'ai lu ce livre-là, puis je suis entré dans un rêve où les gens disaient de moi, pareil, Seb, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Puis d'autres avaient écrit un bouquin, puis dans l'ombre, vous allez avoir la photo du livre avec ma face. Pasteur Seb, un homme selon le cœur de Dieu. Puis je me suis réveillé. Je suis réveillé, je me suis rendu compte que personne n'a écrit un livre sur moi et que personne n'avait jamais pris la parole en disant « Moi, je connais Pasteur Seb, c'est un homme selon le cœur de Dieu, puis pour telle et telle et telle raison. » Mais si on l'a pas fait pour moi, on l'a fait pour David. Enfin, je me suis interrogé un instant, puis je me suis dit « David était un homme selon le cœur de Dieu. » Et j'ai repris la Bible, j'ai repris la parole de Dieu, puis j'ai repris un peu, retracé l'histoire de David. Mais je me suis rendu compte que David avait vraiment été un homme selon le cœur de Dieu. Il a écrit des merveilleux psaumes, il a écrit des belles prières. On voit les actes de bravoure de David. Puis tout ce qui fait que David est un homme selon le cœur de Dieu. Le prophète Samuel déclare lui-même à son sujet, il dit dans 1 Samuel 13-14 que l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Enfin, qu'on s'entend que pour mes auteurs, ils s'étaient pas cassé la tête parce que quelqu'un l'avait déjà dit avant eux. Il s'est cherché un homme selon son cœur et il l'a trouvé. L'apôtre Paul également rappellera la déclaration de Dieu qui dit « J'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » Et c'est vrai que si on regarde les exploits de David, on va dire « David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un homme avec une relation avec Dieu. David était un homme lorsqu'il tue Goliath. David est un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il retire les ennemis d'Israël, il est un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il amène une ère de prospérité dans le pays, lorsqu'il ramène l'arche de l'alliance, David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais ma question, et c'est la question que j'ai posée, j'ai dit mais comment David peut-il être appelé un homme selon le cœur de Dieu lorsque nous lisons dans la parole les travers de David, les échecs de David, le péché de David. Et il y a des fautes qui résonnent, lorsque l'on parle de David, il y a des fautes qui résonnent plus fortes que d'autres. Et une des fautes qui résonne, alors qu'il est au sommet de sa gloire, qu'il pense que tout est bon pour lui, et il n'y a plus rien qui peut lui arriver. David va finalement tomber dans une spirale de péché qui va le conduire jusqu'à accomplir un meurtre pour couvrir un adultère. Mais en tout cela, David reste un homme selon le cœur de Dieu. Il commet un adultère, il tue un homme, il revient à la normale dans la plus grande simplicité, pas vu, pas pris, personne n'est au courant, tout va bien pour moi. Et David est un homme selon le cœur de Dieu. Et David pense tout est correct pour lui jusqu'à ce que Nathan intervienne, que Dieu envoie le prophète vers David. Et que le prophète révèle à David, voici ce que tu as fait. Voici ce que personne ne voit, ce que personne ne sait. Mais là où personne n'a vu, là où personne ne sait, Dieu a vu. Dieu sait. Dieu connaît et Dieu m'envoie pour te mettre face à tes erreurs. Alors ma question ce matin, c'est finalement, est-ce que le péché est un facteur qui dénature notre conformité avec Dieu? Ben, la réponse est oui. Tu peux pas être conforme à Dieu et puis vivre dans le péché. Avoir des choses dans ta vie que Dieu a en horreur puis être finalement conforme. Non, le péché est un facteur qui dénature notre conformité avec le cœur de Dieu. Alors comment David finalement peut-il être appelé un homme selon le cœur de Dieu lorsque nous lisons finalement ses fautes, ses erreurs et la force de certains de ses péchés. J'aimerais te dire ce matin que la repentance et la recherche de sanctification sont les clés de la conformité de David. Qu'est-ce qui fait que David était un homme selon le cœur de Dieu? Bien sûr, le péché nous disqualifie. Bien sûr, le péché impacte notre conformité avec Dieu. Mais la repentance et la recherche, la course vers la sanctification rétablissent notre statut avec Dieu. David a commis des erreurs, mais il est sans cesse revenu à Dieu. David a commis des fautes, mais à chaque faute, il est comme venu dans la présence de Dieu et dit « Ça, voici mes fautes. » Voici, et à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, on peut voir que David déclare ceci, il dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Qu'est-ce qui fait que David est un homme selon le cœur de Dieu? Parce que David a porté ses fautes. David reconnaissait qu'il n'était qu'un homme. David reconnaissait qu'il n'était pas capable. David revenait dans la présence de Dieu pour rechercher pardon et sanctification. Et c'est une différence majeure entre Saül qui l'avait précédé et David. Parce que David n'est pas dans l'excuse, il est dans la confession de ses fautes. Il est dans la confession de ses fautes. Et si aujourd'hui on doit retenir une prière de David que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble, c'est une prière de honte, une prière de culpabilité, une prière que David adresse à Dieu alors que Nathan est venu le mettre face à l'horreur du péché, face à ce qu'il a commis, face à ses fautes de convoitise, d'envie, d'orgueil, d'adultère et même de meurtre. Et c'est alors qu'il est face à cela, c'est lorsque David est confondu devant Nathan, que David prend une position en tant que roi et dit « Oui, oui, la personne qui a fait tels actes, elle doit mourir. » Que Nathan lui dit « C'est toi qui vas mourir. Parce que le gars, c'est toi. » Et David est là comme « Oh !» choqué, bousculé. Et il va écrire ce merveilleux psaume, le psaume 51, dont on va faire une lecture ensemble, le verset 3 à 14. Et voici la prière de David. David déclare « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront. Puis il dit, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quelle prière puissante. Quand je lis cette prière, je déclare, oui, David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu l'appelait dans le pardon, dans la repentance et dans la recherche de sanctification. Et c'est ça qui dit, crée en moi un cœur pur. Mon cœur est pas capable. Et à travers ce que j'ai fait, à travers ce que j'ai mis en place, je me rends compte que même avec tous mes efforts, mon cœur n'est pas capable. Mais tu peux créer en moi un cœur pur. Psaume 51, c'est la prière d'un serviteur de Dieu qui, dans un moment d'égarement, s'est retrouvé prisonnier de sa convoitise. Et c'est le cri d'un homme qui reconnaît ses fautes et qui aspire à la rédemption. Voici qui je suis. Voici la noirceur de mon péché. Voici ma honte. Voici mes fautes. Voici ma culpabilité. Et je reculerai pas et je les cacherai pas, mais je présenterai ça devant toi. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Enlève de moi, enlève de mon cœur tout ce péché, toute cette honte, toute cette horreur de tout ce que j'ai mis en place. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la prière de David, c'est le constat d'un homme qui réalise que personne ne peut contrôler ou dominer le péché par lui-même. Tu as besoin de quelqu'un de plus grand, besoin de quelqu'un de plus haut, tu as besoin de quelque chose de plus puissant. Le péché sera toujours supérieur à toi, mais il restera toujours inférieur à l'amour et à la puissance de Dieu, au pardon et à la rédemption. Voici qui est David, un homme qui s'en vient et un homme qui déclare « Je ne serai plus l'esclave de ce péché, de cette horreur. » Tu peux pas flirter avec le péché sans le voir tôt ou tard s'installer dans ta vie. C'est une réalité. Tu peux pas inviter le péché et faire un jeu chat-souris, séduction. « Oui, mais regarde, je suis capable de, mais je tombe pas. » Mais tôt ou tard, je te dis, si tu flirtes avec le péché, tôt ou tard, c'est juste une question de temps. Mais le péché te mangera. Nous avons besoin de réaliser. Il y a tellement de choses qui nous dépassent. Mais tout ce qui nous dépasse ne dépassera jamais Dieu. Ça, c'est une réalité. Tout ce qui nous dépasse ne dépassera jamais Dieu. Et si je veux pas être dépassé, je dois demeurer avec lui. Je dois me tenir dans sa présence. Je dois revenir sans cesse à ses pieds. Seigneur, voici ma vie, voici mon cœur, voici mes pensées. Oh, crée en moi un cœur pur. Au milieu des mauvaises nouvelles que le monde nous donne au quotidien. Inflation, augmentation des prix, chômage, nanani, nanana. Au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. C'est que si David, l'homme selon le cœur de Dieu, a péché et qu'il a été restauré, parce que l'histoire et la Bible nous montrent que David a été restauré, ça ouvre une fenêtre d'espoir et de grâce pour chacun de nous ce matin, chaque personne de l'humanité, chaque personne qui va déclarer « Je marcherai dans les pas de David ». Nous avons besoin d'entrer avec David dans une prière de sanctification. La prière de David, c'est pas un permis pour pécher, c'est un droit à la rédemption. Un droit à la rédemption. Voici qui j'étais, voici j'ai chuté, mais voici celui qui va me relever. Voici qui je suis. Nous devons veiller pour nos vies à ne pas oublier la sanctification. Parce que lorsqu'on oublie la sanctification, finalement, le péché redevient une prédisposition. Nous sommes, le péché est en nous, le péché est dans l'homme. Tu sais, as-tu remarqué déjà, puis pasteur Florian, tu vas t'en rendre compte tellement vite, c'est comme t'as des enfants, puis quand ils commencent à grandir, c'est que t'as pas besoin de leur apprendre à faire des choses qui sont mal. C'est comme c'est en eux. Tu sais, gars, tu veux la bouteille, puis quelqu'un l'a pris, puis bim! Tu vas mettre un coup pour prendre la bouteille. Ça, c'est les enfants. C'est vrai, tu vas voir ça. C'est... Je donne les mauvais points, mais après, quand ça grandit, c'est super, c'est top. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à faire le mal. C'est qu'il y arrive tout seul et très vite. Parce que le péché, finalement, est en nous. Et nous avons besoin de veiller et de marcher dans la sanctification. Parce que sinon, le péché redevient en nous une prédisposition, une disposition naturelle. Et David, il a succombé au moment où il pensait peut-être que tout était correct pour lui. Au moment où il pensait où tout était clean, tout était beau. Enfin, regarde, oh, ok, j'ai amené la paix, l'arche de l'alliance, voici ma situation, voici la grâce de Dieu sur ma vie. Puis, à un moment donné, un temps d'égarement, il oublie la sanctification. Il oublie les commandements que Dieu a donnés. Et il succombe au péché parce que il a juste un moment d'égarement, puis il est juste connecté sur une autre station de radio, là. Comme, station adultère. Oh, oui. Et pourtant, David connaissait Dieu. David connaissait les commandements de Dieu, David connaissait la loi et le livre de Lévitique 19:2 qui disait soyez saints, pardon, car je suis saint, moi l'Éternel. C'est un appel pour une marche permanente dans la sanctification. C'est un appel à veiller et à ne pas laisser de faille au péché. Et nous avons besoin, et David avait besoin d'être toujours à l'affût, toujours de garder toujours une oreille alerte au chant des sirènes qui voulait le déstabiliser. Comment résister finalement au péché dans nos vies, à celui qui vient marcher contre nos vies? Ça passe par un sacrifice, ça passe par un désir de « je vais checker ma vie à tous les jours, je vais regarder qu'est-ce qui est dans mon cœur ». Je vais regarder mes pensées. Je vais regarder tout ce que mes pensées mettent en place. Je vais veiller sur mes mots. Je vais veiller sur mes attitudes. Je veux rester saint. Il y a des choses qui veulent venir en moi et des choses qui sont en moi que je vais sacrifier. Je vais délaisser. Je vais dire ça, je n'en veux plus. J'abandonne ça sur le coin pour laisser plus de place à la personne du Saint-Esprit dans ma vie. Nous avons besoin d'être à l'écoute permanente de Dieu, afin que nos vies soient conformes à ses intentes. Et le temps d'un instant, David a été distrait par une autre voix que celle de Dieu. Ça n'a pas pris longtemps. C'est comme juste David est sur un toit, il voit une femme. Puis l'histoire pourrait s'arrêter là. Et David tourna les talons en disant, « Seigneur, je ne pécherai pas contre toi. » Et l'histoire s'arrête. Mais soudainement, David est comme attiré. Et David commence à écouter une voix qui n'est plus celle de Dieu. Puis des idées naissent. Puis on aurait pu dire, puis l'idée gagna les pensées de David qui rejeta ça au nom de Jésus, puis est parti. Mais finalement, il a trouvé ça pouvait être bon. Et puis il a commencé à cultiver quelque chose dans ses pensées qu'il avait. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu nous parler. Et particulièrement dans le brouhaha du monde qui est celui dans lequel on vit. Et c'est-tu la clé pour entendre quelqu'un te parler? La proximité. La proximité. Tu sais? Quand dans un monde, tout est bruyant, tout est brouhaha, c'est qu'est-ce qu'on fait si on veut parler à quelqu'un? On s'approche de lui. On lui parle dans l'oreille pour être sûr qu'il entende. Et pourtant, il y a des gens qui sont à 2 mètres et n'entendent pas ce que tu dis. C'est la même chose avec la présence de Dieu. Nous avons besoin d'entrer dans une proximité avec lui. Nous avons besoin de nous approcher et de dire, Seigneur, malgré tout le bruit que ce monde fait, malgré le péché, malgré les difficultés, malgré la séduction, malgré, Seigneur, je veux m'approcher de toi, parle à mon oreille. C'est ta voix que je veux entendre. Mais quelquefois, il y a une réalité, c'est qu'on est parfois trop loin pour entendre Dieu. Mais on n'est pas assez saint pour rentrer plus proche de lui. Tu vois ça? On est trop loin pour entendre Dieu. Finalement, on sait qu'on n'est pas assez saint pour se tenir dans sa présence. Alors finalement, on compose avec ce que le monde nous donne. Nous avons besoin de nous tenir dans la sanctification, de sacrifier ce qui en nous, en moi, empêche la proximité de Dieu qui me place dans la confidence de Dieu. J'ai une photo à l'écran, c'est chez moi. Normalement, vous avez une photo de ma cuisine là, c'est très moche. On est dans les travaux, on a acheté une maison, mais et puis j'avais une cuisine, je suis entrepreneur en France et mon job à moi c'est de fabriquer des cuisines et de les vendre à des clients. Et un client m'a laissé une cuisine sur les bras, il l'a pas pris, il l'a pas acheté mais elle a été fabriquée. Alors, j'ai ma cuisine, j'ai mon espace, j'ai ma cuisine. Le problème, ma cuisine rentre pas dans l'espace. OK? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Faut que je fasse quelque chose. Alors, comme je suis un peu radin, parce que nous, les Français, on est radin, c'est, je veux pas dépenser d'argent pour acheter une cuisine. J'en ai déjà une. Pas forcément celle que je voulais, mais elle est tellement belle. Alors, j'ai commencé à faire des travaux. J'ai cassé des murs en béton. Tu sais? J'ai cassé des murs en béton pour faire entrer ma cuisine. Puis la réalité, tu sais quoi? Au début, t'es plein de courage. Sur le papier, ça fait tellement beau. Tu dis, ouh, c'est joli. Mais quand tu commences à taper dans le béton, c'est dur le béton. Tu sais, le béton, il descend pas comme ça. Alors tu tapes plus fort, tu tapes plus longtemps. Puis quand tu as enlevé la moitié du mur, ben, des fois, tu n'as presque plus le goût de le faire. Tu dis, gars, ouais, finalement, est-ce que ça valait vraiment la peine? Mais tu vas au bout, tu es déterminé, parce que sinon, ta cuisine, elle rentre pas. Mais tu sais, des fois, dans nos vies, c'est la même chose. On voudrait tellement faire entrer la présence de Dieu, mais il y a des murs, il y a des choses qui sont là, qui empêchent Dieu de se tenir dans nos vies. Je veux te dire ce matin qu'il y a des murs qui doivent tomber, il y a des palissades qui doivent être renversées afin que Dieu puisse entrer pleinement en nous et puisse nous parler, que Dieu puisse avoir cette proximité avec nous pour nous parler. La folie de la convoitise a conduit David dans une succession de péchés qui l'ont amené à être finalement, à comme perdre tout droit de ce qu'il était. C'est comme David, tu n'es un temps donné, je crois que dans ce moment-là, David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David est revenu, l'homme selon le cœur de Dieu. L'ennemi, le diable, va chercher toujours à pénétrer nos pensées, nos cœurs, nos actions pour mieux nous tenir. Et c'est l'œuvre du péché. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu pour mieux nous contrôler, pour mieux nous asservir. Le péché, il anesthésie tes pensées, il brise ta proximité avec le divin conseiller. Et lorsque tu es tenu par le péché, tu n'es plus capable d'entendre la voix de Dieu. À tel point que le péché de convoitise se transforme en adultère. L'adultère se transforme en meurtre. Mais à chaque étape dans la folie du péché, David aurait pu reprendre raison. Mais l'ennemi anesthésie les pensées. Nous avons besoin de nous tenir dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit pour briser le pouvoir du péché. Mais ça, ça prend une poursuite permanente de la sanctification. Dire à quelqu'un, la sanctification, c'est une quête, c'est une marche sans fin. Je ne m'arrêterai pas de marcher. Je ne m'arrêterai pas de rechercher. Et finalement, le péché de David et la prière de David, ils mettent en évidence que la sanctification, c'est une quête. Tout comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit. Il dit, recherchez la paix et avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une quête, la sanctification. Tu peux pas décider de te sanctifier lundi puis penser que tu es correct pour le restant de tes jours. Non. C'est que tu vas devoir recommencer le mardi, puis le mercredi, puis le jeudi, puis à chaque jour, dans ton culte personnel, dans ta relation avec Dieu. Seigneur, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, encore pour aujourd'hui, encore pour ce dimanche 29. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle mon esprit. Seigneur, que rien ne m'échappe, que rien ne m'emmène dans des chemins de travers. C'est toi que je veux garder dans ma ligne de mire. Et j'aime ce passage de l'Épître aux Hébreux. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que le mot rechercher dans le grec, c'est dioko. Et c'est pas juste chercher. Y a-t-il de la sanctification là? Non, bon, écoute, je repasserai demain. Non. C'est dioko, c'est tellement plus que chercher. C'est poursuivre quelque chose. C'est courir après pour rattraper. Il y a un désir, il y a une volonté de « je m'arrêterai pas, je ralentirai pas, je continuerai à courir ». Rechercher la sanctification, c'est littéralement « cours après la sanctification, ne t'arrête pas, saisis-la une fois, saisis-la deux fois, saisis-la 10 fois, saisis-la chaque fois, saisis-la ». Et le terme « personne ne verra le Seigneur », c'est le grec c'est « optanomai ». Et « optanomai », ce mot il m'a fait rêver parce que c'est littéralement « apparaître ». C'est se laisser voir. Et c'est le même mot qui est décrit dans Matthieu 17 quand Moïse et Élie se présentent avec Jésus. La transfiguration. Puis eux, ils sont là, Moïse et Élie. Et c'est comme littéralement, c'est le même mot, optanomai. Ils se laissèrent découvrir. Ils sont apparus. Et c'est finalement, c'est plus que de voir le Seigneur. C'est de constater qu'il se révèle à toi. Plus tu vas chercher, plus tu vas marcher, plus tu vas vouloir saisir la sanctification, plus tu vas la poursuivre et plus tu vas te rendre compte que Jésus se révèle à toi. C'est tellement bon, optanomai, parce que c'est pas au sujet de nous, c'est au sujet de lui. Tu sais, nul ne verra, c'est au sujet de moi. C'est moi qui ai la capacité de voir. Mais optanomai, c'est au sujet de lui, c'est lui qui se laisse découvrir. Mais si tu marches dans la sanctification, si ton désir c'est d'aller toujours plus loin dans la sanctification, alors il va se laisser voir, il va se laisser trouver. C'est pas ce que tu fais qui te donne le droit de voir Jésus, c'est parce que tu le fais qu'il se révèle à toi. Tellement plus grand, tellement plus puissant. Et la révélation n'est pas coûteuse pour Jésus-Christ parce qu'elle est sa volonté. Elle est la volonté parfaite qu'il a. Et son cœur est brisé lorsqu'il n'a pas cette opportunité, lorsqu'il ne peut pas venir dans des vies qui sont encombrées par le péché. On a besoin, comme je disais dans ma cuisine, d'écrouler des murs pour laisser entrer la présence et la personne de Jésus-Christ. Et l'auteur aux Hébreux, il déclare ici une vérité qui est tellement grande. Il dit, ni plus ni moins, il dit, c'est pas compliqué, vous voulez me voir, mais vous ne voulez pas changer. Vous m'invitez à venir, mais vous n'avez même pas préparé de place. Vous voulez m'entendre, mais vous voulez pas vous approcher. Vous me demandez de venir, mais le chemin est obstrué. Et vous me demandez d'entrer, mais la porte est fermée. Jusqu'à quand est-ce que nous serons de ceux qui appellent Jésus sans rien préparer? Nous voulons préparer une place. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé. Seigneur, efface mes transgressions, efface, annule mon iniquité. Seigneur, je veux faire place nette, je veux que tout soit nickel pour que tu puisses entrer, pour que tu puisses te tenir dans mon cœur, dans ma vie, dans mes actions, dans mes mots. J'ai besoin de toi. Si tu recherches la sanctification, si nous recherchons la sanctification, pas celle que l'homme s'est créée, celle qui vient du ciel, celle que Dieu seul peut procurer. Tu sais, l'homme est champion pour préparer, fabriquer les choses par lui-même. Mais il y a des choses que l'homme ne pourra jamais préparer, l'homme ne pourra jamais fabriquer, que l'homme ne pourra jamais substituer. Et la sanctification n'est pas quelque chose que l'homme peut créer. Ça donne une image de personne sanctifiée, mais la réalité, c'est que la sanctification que Dieu veut nous donner, c'est une sanctification qui vient du ciel. Et Charles Spurgeon a dit ceci, il a dit « La sainteté n'est pas le chemin qui mène à Christ, c'est Christ qui est le chemin qui mène à la sainteté. » Tu sais? Et rechercher la sanctification, c'est littéralement rechercher Jésus. Parce que Jésus est saint, parce que Jésus est la sainteté, la sanctification dans toute sa perfection. Rechercher la sanctification, c'est cours après Jésus, c'est Dioko, cours et attrape, saisis qui est Jésus. Parce que ça va amener quelque chose de tellement plus grand, tellement plus fort dans ta vie. Nous n'avons pas besoin de créer notre propre sanctification parce que Jésus est notre sanctification. La sanctification que Dieu réclame pour entrer dans sa présence, elle ne réside pas dans l'humain, elle est dans le divin. Elle est dans le divin. C'est quelque chose qu'on peut pas trouver sur cette terre. Tu vas pas trouver ça chez Costco, chez IGA ou chez je ne sais qui, là. Le dépanneur du coin. Non, 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 non. Ça vient du ciel. Et c'est pourquoi on a besoin d'aspirer à ce qui vient du ciel pour pouvoir contempler celui qui est du ciel. Aujourd'hui, on vit une ère privilégiée. Tu sais? David était là, puis David, c'est comme, le prophète Nathan est venu pour dire à David, voici ce que tu as fait. Mais nous sommes aujourd'hui, 2023, une ère privilégiée. On vit dans une ère des générations d'après Jésus-Christ. On est des propriétaires de lignes directes, ok, entre nous et le ciel. T'as pas besoin qu'un homme vienne te voir pour te dire, regarde, je sais ce que t'as fait, puis ça c'est pas beau, puis ça c'est pas très joli, puis ok, tant qu'on me l'a pas dit, c'est comme c'est correct. Non, non, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit parle à nos cœurs. La puissance de l'après Jésus-Christ, c'est que l'Esprit Saint est venu, que l'Esprit Saint est venu dans nos cœurs, que l'Esprit Saint est le prophète Nathan permanent en nous qui dit bien, pas bien, t'as besoin de te mettre sur tes genoux, t'as besoin de pleurer sur ton péché, t'as besoin. La croix a changé la donne pour nous. La croix a comblé l'abîme qui nous séparait de Dieu. Elle a rétabli la ligne qui nous connectait avec le Saint-Esprit et elle a restauré notre identité à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes trouvés dignes de nous tenir à chaque instant dans tout ce que nous faisons lorsque nous commençons à prier. Seigneur, voici ma vie, voici mes œuvres, et puis voici où je me trouve. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Donne-moi, aide-moi à faire le tri. Nous avons besoin de la sanctification. C'est une assurance. Nous avons besoin de la sanctification parce que le péché a modifié l'ADN de la sainteté en nous. Et comme celui-ci a été modifié, il est plus parfait. Mais il est en défaut. C'est pour ça que nous avons besoin de rechercher la sanctification afin de nous réfugier auprès de Christ. Ce qui est beau dans la parole de Dieu, c'est que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on peut considérer et concevoir que tout ce qui a rapport avec Dieu est sanctifié. Tu sais, dans l'Ancien Testament, on sanctifiait les lieux, on sanctifiait les outils, les ustensiles, on sanctifiait les vêtements, on sanctifiait les acteurs, les hommes qui allaient se tenir dans la présence de Dieu. Tout devait être sanctifié. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'alliance dans laquelle nous vivons, nous rendons compte que finalement, tout est pareil. Tout ce qui a rapport avec Dieu doit être sanctifié. Rien n'a changé parce que Dieu ne peut pas changer sa nature. Dieu est saint et si nous voulons être utiles à Dieu, nous avons besoin d'être saints. Et alors que David est pris dans son péché, David est face à son horreur, David prend conscience que, waouh, je ne suis plus celui que Dieu avait décidé que j'étais. Mais j'ai cette opportunité, j'ai cette possibilité de crier à Dieu, d'apporter mes fautes, d'apporter mon péché, parce que je veux que les choses soient renouvelées en moi. Je veux que ce que j'ai abandonné, je veux que ce que j'ai mis de côté, je veux que ce que mon péché a couvert, je veux que Dieu lève le voile et que je sois trouvé digne de me tenir à nouveau dans sa présence. Dieu crée en moi un cœur pur. Ne regarde pas mes fautes. J'étais conçu dans le péché. Je suis moi-même pécheur. Mais Seigneur, toi t'es capable. Toi t'as la force. Toi t'as les compétences pour changer ma vie. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Attends un instant pendant que j'appelle les musiciens juste à venir me rejoindre. J'aimerais parler et conclure avec le commandement de la sanctification. Le roi David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu savait une chose, c'est que la sanctification n'était pas une option, c'était un commandement. C'est pourquoi lorsqu'il est face à son péché, il est meurtri à l'intérieur de lui, il prend conscience de l'horreur du péché. Il prend conscience qu'il n'est plus l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaît la parole de Dieu, Lévitique 19, qui disait « Soyez saints parce que je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu, vous ne vous tournerez pas vers les idoles, vous ne ferez pas des dieux de fonte, mais soyez saints dans tout ce que vous passez, dans tout ce que vous vivez. Gardez une priorité de la sainteté dans vos vies. » Et malgré tout, David a péché. David a péché contre Dieu en souillant sa conformité par la convoitise, l'adultère et le meurtre. Et ma question ce matin, si nous avions été au temps de David et si nous avions eu écho de ce qu'il avait fait et si Dieu nous avait parlé en disant « Voici ce que David a fait. » Quelle suite aurions-nous donné à l'histoire? Est-ce qu'on serait entré dans le jugement, dans la condamnation ou dans la destitution? Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a péché. Et au regard de sa faute, nous oublions toutes les belles choses qu'il a faites. Nous renversons d'un revers de main. Bien sûr, le péché de David était grave. Bien sûr, David était coupable. Mais quelle est l'attitude que nous aurions eue? Si Dieu a appelé David un homme selon son cœur, alors qu'il a commis ses fautes, Dieu te dit ce matin que, premièrement, on n'est pas là pour juger, pour accabler, pour destituer. On est là pour aimer, pour entourer, pour équiper. Je ne regarderai pas à ton péché, mais je regarderai à celui qui peut te sauver. Puis au-delà de ça, si j'étais David, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'au-delà des fautes, au-delà des échecs, au-delà de l'entêtement, au-delà de la somme du péché de nos vies, au-delà de la hauteur de la honte, au-delà du poids de l'accusation, tu peux être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu ce matin. Dieu dit, je l'ai déclaré pour David, je veux le déclarer sur ta vie. La clé, c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il n'a jamais excusé ses fautes ou son péché. David a toujours été confronté, il a regardé, il a vu ses fautes, vu l'horreur de son péché, puis il n'a jamais cherché à les cacher. Il a dit, je viendrai, je me tiendrai dans la présence de Dieu et je dirai, voici mes fautes, voici ma honte, voici mon péché, voici l'horreur de ce que j'ai fait. Seigneur, mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Dans ce psaume, David a déchiré son cœur face à l'horreur de ses fautes. Il a imploré la grâce qui efface la transgression. Et nous, pour nous, qu'est-ce qu'il en est? La grâce, elle a été libérée publiquement, offrant la vie et brisant à la croix le pouvoir de la culpabilité, de la honte et du mépris, brisant le pouvoir du péché et de la mort qui y était attachée. Et aujourd'hui, on est tous en mesure de venir dans la présence de Dieu. C'est même tellement plus que cela, parce que finalement, c'est Dieu qui vient et qui se révèle pour se tenir à nos côtés. C'est un changement que Dieu opère qui est conditionnel. si je veux voir le changement dans ma vie, je veux voir le changement de ma destinée, je dois être le premier à changer. Je dois décider dans mon cœur, je serai le premier à changer. Alors, pasteur Seb, comment je fais? Comment je peux faire? Quels encouragements je peux donner à mon frère, mon ami, mon mari, ma femme, mes enfants qui aujourd'hui n'ont plus la force de venir dans la maison de Dieu parce qu'ils sont sous le poids de la culpabilité, de la honte? Je voudrais te dire ceci, nous avons juste besoin de venir comme David l'a fait, avec des cœurs authentiques, avec des cœurs qui disent, Seigneur, voici mon péché. Dans la noirceur de mon cœur, Seigneur, je suis pas là pour tricher, je veux pas juste venir et finalement diluer un peu de ta présence dans mon péché. Pour obtenir une bonne conscience, je veux pas juste remplir ma vie et compenser mon péché. Mais Seigneur, je viens dans ta présence demander pardon. Et je te demande, crée en moi un cœur pur, que les sources, les flots de ta grâce puissent couler abondamment sur ma vie, afin que le péché ne soit plus et que mon cœur soit lavé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est la prière d'un homme qui se tient face à son péché et qui dit, c'est pas toi que je veux, c'est la présence de Dieu. C'est pas toi que je veux, c'est la présence de Dieu. Et je veux quitter mon péché. Ma conclusion ce matin, c'est qu'en dépit de ses fautes, David était un homme de confession et de repentance. Confronté à ses péchés, il les a toujours reconnus, il les a toujours confessés. Et sa confession dans le psaume 51, elle dénote un cœur brisé. Un cœur qui est face à l'horreur du péché. Un cœur qui est là, qui se tient, puis qui dit, waouh, j'ai tellement brisé le cœur du Père. Et ma question finale, c'est quand la dernière fois que ton cœur a été brisé face au péché qui s'est installé dans ta vie? Parfois, nos cœurs sont plus brisés par le péché parce qu'on pense que finalement, c'est pas grave, c'est pas un gros péché. T'sais, on a comme presque mis une échelle du péché. Qu'est-ce qui doit nous briser, puis c'est presque passable, recevable. On a besoin de réaliser que nos cœurs ne doivent pas être brisés par la taille du péché, mais par l'offense qui a été faite à Dieu. Petit péché ou grand péché, c'est une offense que nous faisons à Dieu. C'est une tâche que nous mettons dans nos cœurs et nous avons besoin de nous tenir dans sa présence. Avant de finir, j'ai juste une photo qui apparaît à l'écran. Normalement, vous avez un gars avec une guitare sur ses genoux. Puis ce gars, c'est mon fiston, c'est mon fils aîné. Et alors que sur un de mes voyages, on était avec sa maman, on était à Los Angeles, à l'autre bout du monde. Et pendant ce voyage-là, mon frère qui gardait mes enfants m'appelle et me dit, et ton fils vient de rentrer, il est tard le soir et je crois qu'il se drogue. Wow. Fait que t'es à plus de 10 000 kilomètres, tu peux rien faire. Mais je dis, écoute, envoie-moi la photo, puis j'ai un petit background là-dedans, c'est comme je vais savoir dire. Quand la photo arrive, ouais, c'est concret. Mon fils touche à la drogue. Et je lui dis, tu lui dis que demain matin, on s'appelle. Et lorsqu'on était en vidéo avec lui, quand on a commencé à partager son péché, qu'on a commencé à mettre devant ses yeux ses fautes, et on a commencé à pleurer en disant, on est tellement brisé de voir ce que tu fais. Et la réponse à nos larmes, ça a été ses larmes à lui. Des larmes d'un enfant qui réalisait que j'ai brisé le cœur de mon père. La confiance qu'il avait en moi. Les espoirs qu'il avait mis sur moi. Et alors qu'on se tenait à 10 000 kilomètres les uns les autres dans les larmes. C'était la seule fois. Il n'y a jamais eu d'autre fois. Où ce gars a touché à la drogue. Et alors que, voyez la photo là, c'est un leader louange, c'est un gars qui donne tout avec sa guitare pour Jésus. C'est un gars qui est inspirant, c'est un gars que Jésus a sauvé. Parce que la prière d'un père qui appelle, qui dit « Prends conscience de tes fautes » a amené les larmes d'un enfant qui a dit « Je suis coupable, mais ne tenez pas ça sur ma vie, à vitam aeternam. Je dépose ça ce matin devant vous. J'ai besoin à nouveau que vous croyez en moi. J'ai besoin à nouveau que vous misiez sur moi. Oh, Dieu, crée en moi un cœur pur. Ne regarde pas mon échec. Je suis capable de faire mieux. Je suis capable de faire plus. Je suis capable d'aller plus loin. Je suis capable de me relever. Seigneur, me brise pas. Me laisse pas dans la honte. Me laisse pas dans mon péché. J'ai besoin de plus de toi pour aller plus loin avec toi. » Et lorsqu'on prend conscience de cela, lorsqu'on prend et qu'on réalise finalement la grâce que Dieu nous fait, ça nous appelle dans la sanctification, ça nous appelle à rechercher, à marcher, à garder une conscience délicate et sensible devant Dieu. Je ne céderai pas au péché, mais j'ouvrirai mon cœur lorsque le Saint-Esprit me mettra face à mes fautes. Donc on va prendre ce chant ce matin qui dit « Je bâtirai ma vie sur ton amour, sur ta puissance. » Je veux déclarer ce matin que toi seul es saint. Et parce que tu es saint, je veux me tenir dans ta présence ce matin. Pendant qu'on peut se lever ensemble ce matin, juste peut-être garder nos yeux fermés dans la présence de Dieu, nos bras tendus vers le ciel, peut-être pour toi ce matin, peut-être pour ton mari, pour ton épouse, peut-être pour un de tes enfants. Mais est-ce qu'on peut se tenir dans la présence de Dieu puis déclarer, Seigneur, tu es très saint. Tu es très saint. Personne n'est semblable à toi. Tu es le seul qui apporte la grâce là où le péché a été positionné. Tu es le seul qui sanctifie nos vies face à l'horreur, les conséquences de nos péchés. Et pendant que l'Église chante avec moi, très saint, tu es très saint. Nous élevons nos voix en faveur de nos propres vies. Nous élevons nos voix en faveur de nos conjoints. Nous élevons nos voix en faveur de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos partenaires, de nos collègues de l'Église qui peut-être ont abandonné, sont restés sur le bord de la route. Nous voulons confesser, Seigneur, très saint.